Bonjour, bienvenue à l'épisode 44 de la French Connection. Cette semaine, je suis avec Damien.
Bonjour tout le monde.
Et les autres chanceux doivent se prélasser présentement au soleil, car autant en Europe qu'au Québec, il fait gros soleil et c'est fort agréable. Commençons par nos shameless plugs. Au Québec, on a Québec Sec qui va avoir lieu le 28 juin prochain et va nous entretenir de red teaming social media dans une conférence qui va nous permettre de faire un peu de pen test au niveau des médias sociaux sur quelle invention on peut retrouver. Et le 30 juin, il y a la nuit du hack à Paris.
Tout à fait. Cette année, la nuit du hack bouge de place. Hein. Avant, c'était chez Disneyland Paris. Cette fois-ci, ça sera dans le centre de Paris, du côté du Forum des sciences. Et ça va être intéressant, comme tous les ans. Hein. C'est des conférences, des ateliers. Il y a une partie, par exemple, nuit du hack pour les enfants. Ça leur permet de découvrir un petit peu le monde de l'informatique et aussi l'informatique plutôt ludique. Et donc, du coup, ça permet à certains qui sont motivés de... peut-être de s'orienter après, qui sait, côté éducation, côté enseignement informatique. Et moi, de mon côté, lors de cette nuit du hack pour la cinquième année, eh bien, j'ai en partenariat justement avec la nuit du hack, hein, c'est eux qui m'ont proposé de faire ce genre de rendez-vous, c'est le confessionnal. Alors, c'est quoi ? Je serai habillé en prêtre, en curé, plus exactement, c'est pour le fun, hein, c'est pour le joke, c'est en fait venir écouter la confession d'internautes, de bidouilleurs, de hackers, ou tout simplement d'étudiants ou d'informaticiens qui ont trouvé des choses dans des entreprises, une faille, une fuite de données, et ils n'ont pas trop envie de contacter l'entreprise. Et ça, c'est leur bon vouloir, hein, c'est eux qui décident. Mais du coup, ils vont passer par moi, donc par le confessionnal, pour justement expliquer. Et c'est moi qui vais faire, le transport de l'information. Et c'est moi qui vais alerter ensuite mes entreprises pour leur dire, lors de la nuit du hack, des gens ont voulu vous aider. Ils n'ont pas trop envie de vous rencontrer parce qu'ils ont peur, on peut comprendre, même si je leur ai dit que vous n'étiez pas des méchants. Voilà, les informations qu'ils ont souhaité que je vous apporte pour corriger chez vous, vous les avez corrigées et voilà. Ça sera l'idée du confessionnal lors de cette nuit du hack.
Bah, c'est une excellente idée dans la mesure où justement les gens, des fois, peuvent être un peu trop curieux et se mettre dans l'embarras et malgré tout vouloir... aider leurs prochains.
Ouais, l'année dernière, j'avais eu des étudiants, par exemple, étudiants en informatique, qui ont été un petit peu trop loin dans le pentest sauvage. Il faut rappeler qu'en France, c'est strictement illégal hein, de faire un pentest sans l'autorisation des gens, justement, audités. Et j'ai eu des cas, alors ça va de l'injection SQL jusqu'en passant par des bases de données accessibles. Donc du coup, ils m'ont fourni des informations, c'était retransmis le lundi donc de la nuit du hack, hein, le lundi après la nuit du hack, et c'est plutôt efficace. Donc du coup, si ça peut permettre en plus de causer, parce que c'est très fun, hein, je vais être très clair, on boit un coup, je veux même pas savoir qui est la personne, hein, on se tape dans la main, on parle de tout et de rien, et ils veulent donner un coup de main, c'est plutôt sympa.
Tout à fait. Donc ça termine un peu nos shameless plugs, puis d'ailleurs je crois aussi que tu vas répéter l'expérience de ce confessionnal-là au Hackfest.
C'est ça.
C'est une occasion pour nous, Nord-Américains, de bénéficier de ce petit moment de répit.
C'est ça, c'est plutôt rigolo parce que du coup, au Hackfest, hein, donc on se retrouvera au mois de novembre, même principe, on boit un petit coup, on se mange une petite poutine, et puis les gens peuvent venir m'expliquer ce qu'ils ont trouvé, ce qu'ils ont fait, et moi je fais tout pour que l'entreprise soit alertée, alors que ça soit une entreprise privée, que ça soit étatique, que ça soit une association, voire même des particuliers. Moi j'ai les outils ensuite pour les alerter de manière à ce que justement, ils aient toutes les informations en main pour, il y a une faille, quelqu'un l'a trouvée, et bien maintenant, corriger.
Un besoin essentiel, surtout pour le côté correctif.
C'est ça, puis là, c'est marrant, j'ai eu un exemple, il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours, d'une grosse société autour de l'aviation, hein, du côté de Québec. Et on a l'information, nous on sert de passe-plat, on sert un peu de notre notoriété pour dire, vous nous connaissez, vous savez que nous, on est des gens gentils, on fait ça bénévolement, on fait ça pour aider, parce qu'on trouve qu'être cyber-citoyen, c'est aussi quelque chose d'important. On est des humains, on vous contacte, vous avez l'information, corrigée, et puis tout le monde est content, parce que non seulement ça vous corrige vous, ça protège vos clients, et puis ça montre qu'une communauté bienveillante est aussi très efficace.
Et très possible aussi d'existence. Passons maintenant aux nouvelles cette semaine. On va commencer par... peut-être pas une nouvelle, mais peut-être une explication sur une information que Vincent et moi, nous avons parlé il y a déjà plusieurs semaines de cela. où on faisait référence au fait que l'Allemagne est un peu irritée que la France dispose autant de personnes sur sa liste, sur le fichier S qu'on appelle, mais c'est une liste qui est partagée pan-européenne. Donc, Damien va nous faire un léger explicatif de ça pour peut-être relativer un peu notre perception de ce qui est associé.
Ouais, c'est pour ça que c'est chouette, hein, la French Connection, ça permet de parler d'actualité, et puis surtout, donc du coup, vous avez entendu parler de ce fameux fichier S, on en entend énormément parler, mais il faut savoir, je vais refaire un tout petit peu d'histoire, hein, c'est juste pour vous expliquer ce que c'est. Il faut savoir que le fichage en France, alors quand on parle de fichage, on parle de ce fichage policier, judiciaire, ça existe depuis déjà des dizaines d'années. Il faut savoir que par exemple, en 1942, c'est vraiment la période la plus noire que la France ait pu vivre, mais l'Europe, mais le monde aussi. En tout cas, en 1942, il y avait déjà ce type de fichage, on appelait ça le carnet B à l'époque. C'est simple, hein, c'était un espèce de fichier qui permettait de mettre sous surveillance des suspects, français ou étrangers. Alors, on se doute bien qu'à l'époque, en 1942, c'était pour ficher qui ? Eh bien, toute personne qui pouvait être dans la résistance et qui tentait de combattre le nazisme et les nazis. En tout cas, ce fichier a évolué. Et au fur et à mesure, ça s'est appelé la liste S, puis le fichier S. Et S, ça veut dire quoi ? Tout simplement, sûreté de l'État. Alors, pour une explication, aujourd'hui, ce fichier S, c'est quoi ? Eh bien, c'est avant tout une fiche qui correspond à des personnes mises sous surveillance. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont dangereux, ça veut dire simplement que les autorités policières ont décidé qu'il fallait eh bien, vérifier qu'ils étaient, en tout cas dans leur mouvement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si une personne est arrêtée pour un contrôle routier, par exemple, pour un contrôle d'identité dans la rue, eh bien, apparaîtra si oui ou non il est fiché S et donc s'il doit être mis sous surveillance. Et ça veut dire quoi ? Je suis par exemple, alors c'est pas le cas, hein, mais je suis par exemple une personne dans la rue qui est arrêtée pour un contrôle d'identité, ou dans le train parce que j'ai pas mes papiers, ou voilà, peu importe. Je suis fiché S, et donc les policiers notifient dans ce fichier que j'ai été contrôlé tel jour et telle heure. Point barre. Ça ne veut pas dire donc que je suis quelqu'un de dangereux, sauf que les fichiers S, c'est pas un fichier mais plusieurs. Il y en a 16, en fait ça va de 1 à 16, si je me trompe pas, je ne sais plus si c'est 1 ou 0, mais en tout cas, ça va jusque 16. Alors, ce n'est pas le niveau de dangerosité hein, de ce jusqu'à 16, c'est simplement à quel niveau est située la personne qui est mise sous surveillance de l'État. Par exemple, le S14, eh bien, c'est là où figurent les djihadistes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ces gens qui sont partis faire la guerre sainte en Irak ou en Syrie, par exemple. Alors, juste pour info, hein, en 2017, on avait, selon les articles de presse hein, qui ont pu être publiés, mais aussi les informations qui ont pu être diffusées par les ministères, entre 15 000 et 20 000 personnes fichées S. Dans ce lot, on a quoi ? On a effectivement des islamistes radicaux. On ne connaît pas le chiffre exact. On voit apparaître 12 000, 15 000. Ça me paraît beaucoup, mais j'en sais rien. Hein, c'est, voilà. Mais aussi dans les autres fiches, il y a quoi ? Il y a des gens radicaux, mais aussi bien écologistes. Il y a aussi bien, eh bien vous savez, les black box, hein, ceux qui manifestent d'une manière radicale, donc tout ce qui va tourner autour de l'anarchisme. Voilà, on a donc tous ces gens qui peuvent être fichés S. Et il faut savoir qu'en France, il n'y a pas que le fichier S. Alors, je vais vous en citer quelques-uns, vous verrez hein, sur notre site sécurité.fm, Nico va vous mettre les liens, hein, les liens qui correspondent justement, par exemple, un lien vers le site du ministère de l'Intérieur hein, qui envoie sur bah, « à quoi ça sert un fichier S ?» Et il y en a d'autres, il y a par exemple le fichier M, qui correspond à quoi ? Eh bien, tous les mineurs, donc toutes les jeunes de moins de 18 ans, qui ont fugué de la maison. Qui ont fugué de la maison, mais aussi qui ont fugué, par exemple, d'un centre qui les accueille. Voilà, ça permet donc aux policiers de se dire « Ah, bah, cette personne qu'on vient de contrôler, il a fugué. On l'a retrouvé, il est vivant. » Après, on a les fiches V. V comme « évadé ». Les prisonniers qui se sauvent, mais aussi les personnes qui se sont évadées, qui se sont sauvées d'un centre psychiatrique, ils sont fichés V. Le S, ben je viens de vous l'expliquer. On a aussi, par exemple, ceux qui ne payent pas leurs impôts ou encore qui doivent des sous au trésor public. Eh bien, eux, ce sont les fichetés. Donc, ça veut dire que si jamais une personne se fait arrêter et qui est fichée T, vous doutez bien que son identité et en tout cas sa situation géographique pourrait être communiquée à l'administration fiscale ben juste pour rembourser, en tout cas payer ce qu'il doit à l'État.
C'est très différent des notions que nous, on vit en Amérique quand on est fiché ou listé dans des listes comme le no-fly aux États-Unis ou tous ces genres de listes-là qui d'un point de vue, disons, américain, principalement, ont émergé suite aux attentats du 11 septembre. Donc, on est dans un contexte où il y a un niveau plus ou moins grand avec une plus grande souplesse et moins de gravité, finalement, à ces listes-là.
Alors, il y a d'autres listes, hein, juste pour info comme ça. Par exemple, depuis mars 2015, il y a un fichier qui s'appelle le FSPRT. Alors, grosso modo, c'est le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. En gros, lui, il permet de cibler et de recenser eh bien, tous les religieux radicalisés. Alors, attention, on ne parle pas que ceux qu'on met plus facilement en avant, qui sont les djihadistes, par exemple, hein, les musulmans radicalisés. Non, mais on peut, par exemple, retrouver les catholiques radicalisés, les extrémistes. Voilà, ça permet de, eh bien, en tout cas, de recenser ce genre de population qui pourrait eh bien, tourner mal. Regardez la secte des Davidiens, Colrèche, si je ne me trompe pas dans le nom, en tout cas, aux États-Unis. Hein, qui était une secte religieuse qui eh bien, sont tous finis morts, certes. Mais voilà, aujourd'hui, ce genre de fichier permet de recenser exclusivement des individus radicalisés religieusement. Il y en a d'autres. Il y a bon, le fichier S, comme je vous l'ai expliqué, bien sûr, mais il y a aussi le FIGIT, F-I-G-I, non, si je ne me trompe pas, F-I-J-A-I-T, hein, si je me reprends bien la chose. Ça, ça a été créé il y a maintenant 2 ans, en 2016. C'est le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes. Donc voilà, tu vois, hein, Nico, il y en a des fiches, il y en a des fichiers. Tout ça se regroupe. Il y en a un autre aussi, mais qui est beaucoup plus vieux. C'était le FPR. Ça date il y a quasiment maintenant 20 ans, si je ne me trompe pas. Fichier des personnes recherchées. Enfin voilà, des fiches, il y en a énormément. Et je pense qu'il y en aura de plus en plus parce qu'il va falloir, et il faut, je pense aussi, qu'il va falloir affiner hein, les algorithmes. On parle de Google, de Facebook et compagnie. Je pense que dans tout ce qui est, en tout cas, maintien de l'ordre et recherche de toutes ces populations radicalisées, les fichiers ont besoin d'être de plus en plus affinés. Maintenant, il ne faut pas non plus que ça se transforme en dictature. Il faut que le citoyen soit au courant de leur existence et qu'on ne fiche pas, je ne sais pas moi, syndicaliste, par exemple, un petit peu trop virulent. Alors, j'entends virulent, c'est quelqu'un qui crie fort dans la rue. Hein. Je ne parle pas de ceux qui cassent les vitrines. Hein. Voilà, c'est compliqué. Et je pense, et je ne voudrais pas être dans la peau des gens qui décident ce genre de mise en place. Mais voilà, en tout cas, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se voiler la face. Il y a besoin de ces fichiers qui permettent de recenser ou en tout cas d'affiner de potentiels gens véritablement dangereux. Maintenant, voilà, je pense que, en tout cas, ça nous dépasse, nous, par rapport à ce qui existe véritablement aujourd'hui dans la rue et dans la vie de tous les jours.
Non, définitivement, mais genre, pour vivre dans un univers où on a très peu de ce genre de listes-là, et les listes que, dans le fond, ont été, ont vu leur apparition, du moins publiquement, plus récemment en Amérique, donc un mauvais usage ou une certaine forme de mauvaise compilation des informations qu'on a dans ces listes-là, est-ce que d'un point de vue français, est-ce que c'est vous vivez le même genre de problème ou il y a un peu plus de rigueur qui est mis dans la gestion de ces fiches?
Ben, la gestion de ces fiches, déjà, il faut savoir que nous, on a une police, en tout cas de la protection des données, qui est la CNIL, mais elle n'est pas obligatoirement, en tout cas, à communiquer sur le sujet. La police, la justice, le ministère de l'Intérieur, ce n'est pas son rôle de communiquer. Donc, on sait que ça existe. En tout cas, ils en laissent des traces et des informations, mais ils ne peuvent pas communiquer sur ce genre de choses. Un exemple très concret, en ce moment, c'est la Coupe du Monde de football. Il faut savoir qu'il existe plusieurs fichiers, dont un qui regroupe les hooligans, hein, ces fameux pseudo-supporters qui sont plutôt là pour foutre la pagaille que pour l'amour du ballon rond. Voilà, donc on a des regards, on a de l'information. En tout cas, la CNIL, elle aussi veille. J'espère, moi je reste un petit peu, allez, on va dire, confiant. Hein. Je vis dans une république, dans une démocratie. J'ai confiance en ma justice et je me dis que si c'est fiché, si des gens sont fichés, c'est pas pour rien. Maintenant, on a malheureusement eu des cas de gens qui étaient fichés et que, voilà, c'était, en tout cas, de premier regard, se dire « mais c'est honteux », etc. Il faut savoir que, par exemple, le fiche S peut être détruit au bout d'un an si la personne n'a pas été remontée dans une infraction, dans un délit ou, en tout cas, dans un comportement qu'on aurait pu considérer comme suspicieux. Voilà. Après, c'est très compliqué. Je pense que nous vivons dans un monde de fichage, qu'on le veuille ou non, avec ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas. Et maintenant, savoir qui en est fait, comment c'est sauvegardé, ça dépasse, je vais être honnête, je pense que ça dépasse largement le citoyen et les citoyens que nous sommes. Je fais confiance.
nécessairement faut faire confiance, mais dans... Est-ce qu'on sait si on est fiché ou on fait juste l'apprendre si on se fait contrôler ou est-ce que c'est un accès que le citoyen lui-même peut savoir dans quelle position il est situé face à l'État?
Non, bien sûr, tu te doutes bien que si un policier te contrôle, tu peux pas lui demander « Bonjour, j'ai quelle fiche, s'il vous plaît, monsieur l'agent ?» Non, ça, c'est bien sûr du secret des... En tout cas, en plus, policier judiciaire, non, on peut pas le savoir. Par contre, il faut savoir que au sein d'un métier, alors surtout dans ce qu'on appelle la fonction publique territoriale, hein, je prends l'exemple d'une mairie, il faut savoir que c'est un décret. Alors c'est un décret qui date de 2016, pareil, hein, au mois de juin, au moment où on se parle, donc en 2016, il faut savoir qu'un maire, un directeur général des services, peuvent demander, ils peuvent interroger alors un fichier qui s'appelle le fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, le fameux FIJET. Il peut l'interroger, c'est simple, hein, il peut dire, est-ce que Damien Bancal, qui souhaite rentrer dans notre collectivité, eh bien, au moment de son recrutement, le maire peut demander, voilà, est-il une personne fichée S ? C'est tout simplement pour, comme ils disent, alors ça peut être perturbant, parce que comme je le disais tout à l'heure, un fichier S n'est pas obligatoirement quelqu'un de dangereux, mais quelqu'un qui est mis sous surveillance parce que, eh bien, par exemple, il a été manifesté parce qu'il était contre un aéroport. Hein, c'est un exemple possible. Voilà, donc il est possible que le maire demande si une personne est fichée S. Il y a aussi un cas, c'est dans l'éducation nationale, ça date d'un peu de 3 ans, 2015. Pareil, l'éducation nationale peut demander au rectorat eh bien, d'exclure quelqu'un qui est, il a une fiche S. Ça peut être tout à fait possible, mais le citoyen, non, ne sait pas. C'est justement là le problème aussi, dans certains cas où on découvre des gens qui ont tenté de perpétrer des attentats terroristes, mais aussi, malheureusement, surtout pour les victimes qui ont eu affaire à des terroristes qui eux-mêmes étaient fichés S. Voilà, c'est super complexe, c'est super compliqué de se dire qu'une personne surveillée... Voilà, ça demande en plus, quand on y pense, j'avais lu, je crois que c'est dans Le Monde ou dans Libération, où ils expliquaient, ce sont des journaux français, ils expliquaient qu'il faut une vingtaine de personnes hein, pour surveiller quelqu'un 24 heures sur 24. Donc si on estime qu'il y a 4000 personnes véritablement considérées comme potentiellement dangereuses, je vous laisse faire le calcul.
Ah, de toute façon, c'est excessivement dispendieux faire de la surveillance, même avec les outils qu'on a actuellement, c'est pas donné à tout le monde, mais de la façon que tu le mentionnes, ça me fait penser à un classique de la littérature française où quand on arrivait dans une ville et on était un ancien bagnard, on devait présenter des papiers jaunes qui nous catégorisaient et stigmatisaient aussi à l'intérieur de la communauté. Et d'ailleurs, cet ouvrage nous montre bien que malgré ça, le droit à la réhabilitation est quand même très important dans nos sociétés.
Oui, clairement. Et là, je viens de retrouver la note que j'avais prise à propos de l'éducation nationale. Le ministère de l'Intérieur communique au rectorat toute personne fichée S. Et ces personnes peuvent se retrouver avec une procédure disciplinaire, voire jusqu'à être une exclusion définitive. Donc, il ne faut pas se tromper dans les fiches. Hein.
Non, c'est vraiment du sérieux. Mais en même temps, on n'a pas le choix. On fait juste regarder ce qu'on a vécu à Québec la semaine dernière avec la tenue du G7, même si c'était pas à Québec même, il avait été prévu que les manifestations allaient avoir lieu à Québec. Et a posteriori, il s'est absolument rien passé, mais c'est peut-être un mélange de surpréparation, de mettre la frousse aux différents informateurs, aux différents groupes qui auraient pu manifester et vouloir casser les différentes choses. Donc, on est dans un espèce d'environnement où les services de renseignement, dans ce cas-ci, sont pas autant fichés ou pas clairement aussi... l'existence de ces fichiers-là ne sont pas aussi clairement identifiés qu'en France, mais sont malgré tout très existants. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de travail en amont pour éviter qu'on ait des manifestations à Québec. Et finalement, la blague, c'est qu'on était probablement quatre policiers par manifestant. Donc, c'est la vie.
C'est ça, c'est la vie. Donc voilà en gros ce que je pouvais dire sur ce qu'on en sait et ce qu'il est possible de savoir sur ce genre de fiches. On met les liens hein, sur sécurité.fm si vraiment vous voulez en savoir beaucoup plus. C'est intéressant en tout cas de voir qu'il n'y a pas que Google, Facebook et autres qui créent des fiches sur les utilisateurs ou en tout cas sur notre monde, qu'il soit numérique ou non. Et puis ce qui est intéressant aussi, ça c'est rassurant, c'est qu'il y a des associations dédiée aux droits de l'homme, qu'elle soit en France ou à l'étranger ou en Europe, qui veille aussi sur nous, dont c'est le travail quasiment 24 heures sur 24, donc on peut aussi se reposer sur elle en cas de doute, ce qui peut être intéressant.
Bah, dans la mesure où on a une capacité de rectifier l'information qui est fausse, le restant n'est pas, c'est pas ultra grave. De toute façon, on a besoin que la société hyper communiquée dans laquelle on a finalement plus le choix de ce genre de choses-là. Donc, c'est un mal nécessaire dans lequel on vit. Et avec la radicalisation aussi, c'est un certain problème de cette nature-là.
Juste pour juste pour finir, si jamais vous souhaitez savoir si vous êtes dans un fichier appartenant au ministère de l'Intérieur, il faut en faire une demande écrite à la CNIL, Commission nationale informatique et des libertés, et elle se chargera de la démarche pour vous dire si oui ou non. Bien sûr, ne vous attendez pas à avoir votre fiche en main, hein, soyons très clairs.
Non, c'est peut-être pas ça, mais au moins de savoir si c'est fiché puis d'apporter les correctifs nécessaires s'il y a lieu, là, c'est un peu cet aspect-là. C'est surtout comme ce qu'on voit aux États-Unis là, sur le no-fly list où on retrouvait des enfants en très bas âge, on se retrouvait avec des affaires qui étaient finalement des informations erronées ou corrompues, que c'était retrouvé à des endroits qui n'ont pas de sens. Puis les gens qui sont ciblés par ça, pénalisés parce qu'ils ne peuvent pas voyager après la dernière minute, et ainsi de suite. Donc, ça crée des situations un peu étranges pour le citoyen.
Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, vous trouverez sur Sécurité FM, on vous mettra un lien qui est directement sur le site educnum.fr. Et là, vous aurez justement quelques informations sur comment savoir si vous êtes fiché ou en tout cas comment éventuellement vous faire supprimer, je ne sais pas moi, par exemple, des antécédents judiciaires, etc., etc. C'est très bien expliqué et ça vous permettra de vous poser sur le sujet et comprendre un petit peu aussi le fonctionnement de tout ça.
Et juste pour terminer, parce que l'Allemagne, c'était justement la nouvelle, c'était que l'Allemagne était irritée du fait que la France ait autant de gens sur sa liste, parce que cette liste-là est partagée de point de vue pan-européen. Donc, dans quelle mesure elle partage ça avec ses comparses européens?
Il faut savoir que l'Europe partage déjà des fichiers dans l'environnement Schengen. Hein, donc, on peut présumer que ce genre d'information est en tout cas consultable. Après, voilà, j'en sais pas beaucoup plus, moi, sur ce point de vue-là, et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à consulter les sites dédiés qui peuvent expliquer comment sont partagées les informations, en tout cas judiciaires. On prend l'exemple d'Interpol, d'Europol, qui se partagent les informations. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure à propos du black market. Les informations entre polices européennes, mais aussi internationales, sont partagées pour des actions judiciaires en cours ou pour retrouver des gens, par exemple, basés en Thaïlande, là, on en parlera tout à l'heure. Voilà, tout ça en tout cas se partage, ça c'est sûr.
C'est très bien, mais justement, on va passer aux vraies actualités dans lesquelles on vit actuellement. La main noire,
oui,
qui a été interceptée.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le dernier épisode, le 43, j'ai été vous faire un petit tour dans le black market. Souviens-toi Nico, on avait été d'abord visiter un black market, une boutique qui vendait plus de 600 000 Français. Et on avait été aussi dans une boutique qui permettait de vendre des Canadiens. Eh bien, ces sites-là étaient en relation avec... Alors, le portail La Main Noire, c'était quoi? D'abord, c'était accessible dans le Darknet. Hein. Pour rappel, le Darknet n'a rien d'illégal. C'est un outil sublissime qui permet de converser, de surfer, de se promener en mode chiffré et plus ou moins anonyme. Après que d'autres l'utilisent à des fins malveillantes, malheureusement, c'est le principe de la voiture. Il y a des gens qui servent de la voiture pour faire des braquages. Eh bien, le Darknet, certains s'en servent aussi pour faire des braquages numériques. Eh bien, la main noire, c'est ce qu'il faisait. C'était donc un grand portail, une espèce de grande galerie marchande qui permettait d'acheter drogue, des armes, des munitions, des bases de données piratées. Et comme je vous l'expliquais hein, dans l'avant-dernier numéro, donc le 43, il était possible aussi de rentrer en relation avec des boutiques comme les deux boutiques qu'on a visitées. Hein. Je vous invite à réécouter le podcast 43, comme ça vous vivrez un petit peu en temps réel au moment où nous le faisions, ce qu'on peut y trouver. Eh bien, la main noire, 4 personnes ont été arrêtées cette semaine, alors la semaine de l'enregistrement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire début juin, mi-juin exactement. Et ça s'est passé eh bien, à 2 pas de ma maison, à 2 pas de là où Nico et moi, nous avons mangé au mois de janvier. Eh bien, 4 personnes ont été arrêtées. Dans les 4 personnes, 2 sont en prison au moment où je vous parle, dont l'administrateur. Et attention, accrochez-vous bien, on parle de sexisme dans l'informatique où ce ne sont que des hommes. Eh bien non, là, l'administratrice de la main noire était donc une jeune femme d'une trentaine d'années. Lors de la perquisition, les policiers ont trouvé 4000 euros en liquide, ce qui n'est pas énorme, 25 000 euros, donc quasiment autant en dollars, en crypto-monnaie, ce qui n'est pas énorme non plus. Le site en lui-même avait, on va dire, n'avait que 3000 membres inscrits. Sauf que la manoir était un espace semi-privé, donc il fallait s'y inscrire, certes. Il fallait montrer patte blanche, ça tombe bien, pour la manoir, ou il fallait être coopté, donc quelqu'un devait dire oui, je le connais bien. Il fallait verser une petite somme en Bitcoin qui permettait donc de s'ouvrir une wallet, et je pense que pour eux, c'était aussi un moyen de contrôler. Alors les autorités, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que c'est la douane, les douanes françaises, qui ont expliqué que c'est leur Direction Nationale du Renseignement, parce qu'ils ont un service de renseignement au sein de la douane, ils appellent ça la DNRED, donc exactement la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, qui ont infiltré, tout simplement. Ils ont fait un travail de longue haleine qui a duré plus d'un an. Il faut savoir que la manoir avait 2 ans d'existence, mais avait un autre nom avant. Ça, je vous invite à venir sur zeptas.com. On vous met les liens d'ailleurs sur sécurité.fm, mais je vous ai mis les liens pour vous expliquer comment ça s'appelait avant, comment ça fonctionnait. Donc là, aujourd'hui, 2 personnes arrêtées, 2 autres se retrouvent en contrôle judiciaire. Ça va être intéressant de suivre, parce que ce qui est intéressant justement, c'est que les douaniers ont dit avoir saisi toutes les bases de données. Donc ça veut dire que les clients, comme les acheteurs, peut-être les escrocs, vous savez, ceux qui reçoivent l'argent et qui redistribuent, eh bien, sont en ce moment en train d'être découpés, analysés, délogués, fichés, justement, on en parlait il y a quelques secondes, pour peut-être finir dans les mains des amis du petit déjeuner qui, à 6h du matin, viendront demander des conseils à ces gens qui vendent de la drogue, en leur demandant et en leur rappelant que c'est illégal et qu'ils ont peut-être tué des gens par leur vente. Et puis, ça montre aussi qu'on a beau se cacher dans le darknet avec un petit peu de moyens d'hommes et puis de méthodes à la James Bond, soyons très clairs, eh bien, ça peut être radical.
C'est très intéressant que, un, de choses de longue haleine, puis qu'il y a un effort réel des corps policiers à s'attaquer à ce genre de secteur-là, parce que...
C'est le premier en France,
C'est vraiment une grosse
première en France, sachant que depuis quelques semaines, quelques mois, la France est en la tête de gondole du black market. Pour rappel, on en a parlé aussi dernièrement, c'est Oxymonster, un dealer breton 2.0 qui a été arrêté aux États-Unis. Il participait comme escroc, mais comme vendeur aussi de drogue dans d'autres black markets. Et pour rappel, souvenez-vous, il avait une énorme barbe et il a été arrêté parce qu'il allait participer au championnat du monde de la barbe aux États-Unis.
Ça a été une drôle de façon. Mais les Américains ont cette manie d'attirer les gens dans des contextes autres pour les pincer. Mais cela, dans la mesure où c'est des mécréants et des truands qui sont à table de cette façon-là, c'est pas très grave, c'est même très bien. Donc ça, fait que non, c'est un gros coup de filet, puis j'imagine que les gens qui sont justement dans toutes ces informations-là, puis probablement que ils ont le même défaut que la plupart des autres, ils ont dû trop sauvegarder d'informations, fait que les corps de police doivent s'amuser à trouver justement à décortiquer tout ce qui se passe, et plusieurs personnes doivent être un peu nerveuses à l'heure actuelle d'avoir utilisé ou consommé de ces services-là. Ils croyaient, à tort, être si protégés.
Oui, c'est ça. Ça va être intéressant à suivre dans les jours, semaines, mois à venir. Tout à fait, oui.
Ouais. Passons à la nouvelle suivante, où un maître chanteur a été justement intercepté par la collaboration entre des corps de police.
Alors justement, tu vois, tout à l'heure, on parlait des différents fichiers, des différentes communications entre police européenne, voire mondiale. Eh bien, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était au tout début de la French Connection. Je vous avais parlé d'un groupe de maîtres chanteurs qui s'appelait Rex Mundi. Pour rappel, c'était un groupe de plusieurs pirates, ou de pseudo-pirates en tout cas, voler des bases de données, ou en tout cas suffisamment d'informations dans des sites internet. Donc ils ont fait le Royaume-Uni, ils ont fait la Suisse, ils ont fait la Belgique, ils ont fait la France. En Belgique, par exemple, ils ont attaqué une grande société de vente de pizza à emporter. En Suisse, ils avaient attaqué une banque. En France, ils avaient attaqué, entre autres, un laboratoire d'analyse de sang. Et donc ce groupe, Rex Mundi, depuis quelques mois, un par un, les membres se font arrêter. Alors ils se font arrêter comment? Eh bien c'est simple, d'abord parce qu'ils ont laissé des traces, ça c'est sûr. Mais justement, c'est par le partenariat et l'échange d'informations des différents services de police de par le monde, de par l'Europe. Et le dernier en date, eh bien, il a été arrêté mi-mai en Thaïlande. C'est pourtant un Français. Il faisait partie du groupe. Il a été arrêté comment? Eh bien, il a participé au piratage d'une entreprise britannique. À partir de ce piratage, ils ont envoyé des mails, ils ont téléphoné. Il a carrément demandé 580 000 euros pour ne pas diffuser la base de données. Ils ont demandé plus de 800 000 euros. Ils ne divulguaient pas la base de données et ils permettaient de corriger leur infiltration. Je vais être très clair avec vous, hein, les gars, côté technique, c'était du bof-bof. C'était à 99% de l'injection SQL sur des sites bah, qui n'avaient pas fait d'audit ou qui n'avaient pas pris ça très au sérieux. Toujours est-il que lui, eh bien, comment il a été arrêté? Bah, c'est simple. La police britannique alerte qui alerte Europol, qui alerte la police française, et tout ce petit monde font quoi? Eh bien, ils demandent un mandat d'arrêt international, et la police thaïlandaise, la police royale, eh bien, a été cueillir ce dernier pirate. Alors, je dis le dernier pirate, c'est simple, pourquoi? Parce que déjà, au mois de juin 2017, 5 personnes de ce groupe, présumé, étaient arrêtées déjà par les autorités françaises. Ensuite, ils ont arrêté 2 autres pirates, parce que la petite finesse de ces maîtres chanteurs, c'est qu'ils allaient tout doucement, à droite, à gauche, et bien recruter. Alors recruter qui? Soit des bidouilleurs, soit des gens qui se disaient « Oh, j'ai une faille !» Et puis voilà. Et donc du coup, 2 autres ont été arrêtés en octobre 2017. Et bien là, on voit, mai 2018, et bien c'est une nouvelle arrestation. Donc on voit que ça va lentement, certes, lentement, mais sûrement.
Ah, y a des actions qui sont posées, puis c'est déjà... C'est déjà bien que ce degré de collaboration-là, parce que ça remonte, disons, 10 ans en arrière, c'était beaucoup plus complexe à mener une collaboration. Donc, les truands pouvaient se cacher dans les ramifications des dédales mondiaux dans lesquels la collaboration n'était pas tout à fait au point. C'est une bonne chose qu'il y ait de moins en moins de cachettes pour les gens avec de mauvaises intentions.
Ah mais clairement, et puis là, ça montre aussi qu'il faut déposer plainte. N'ayez pas peur de déposer plainte. C'est le cybermalveillance.gouv.fr, qui est un service qui a été lancé il y a quelques mois en France, il le rappelait d'ailleurs dernièrement sur Twitter, n'ayez pas peur de déposer plainte, parce que les autorités mettront le temps, mais mettront les moyens, mais mettront le temps pour mettre la main sur ces voyous. Et je prends l'exemple de Rex Mundi, juste pour un exemple très concret et dramatique, je trouve. Ils ont, en 2015, attaqué, piraté un site dédié aux analyses de sang. Donc, c'est la santé. Donc, ça touche l'humain, ça touche vous et moi. Ils volent la base de données, un peu plus de 15 000 patients. L'entreprise ne veut pas payer. Qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont diffusé les noms, les prénoms, les mots de passe correspondant aux accès santé de ces personnes. Pardon, mais c'est dégueulasse! C'est dégueulasse, tout ça pour gagner 2 francs 6 sous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens, on trouve encore cette base de données avec des noms et des prénoms. Et du coup, on se dit, mais pourquoi cette personne allait faire des analyses de sang tous les mois? Eh bien, maintenant, on peut se dire qu'elle est peut-être malade. Enfin, voilà, c'est tout ça pour se la jouer pirate informatique, tout ça pour se la jouer Mr. Wobot pendant 30 secondes. Mais les mecs, restez en prison parce que vous avez pourri, voire peut-être détruit la vie de gens, tout ça parce que vous avez tapé dans une base de données. C'est terrible. Donc, c'est pour ça que n'ayez pas peur de déposer plainte.
Ouais, puis les choses ont beaucoup changé. Autant, on se remonte 10 ou même 20 ans en arrière, il y avait une certaine désinvolture face à ce genre de choses-là. Puis, dans ces époques-là, il y avait très peu d'informations sensibles dans lesquelles les gens étaient exposés, où c'était plus réputationnel, un site web qui était défait. Mais maintenant, effectivement, les données des gens sont clairement là, sont clairement présents, les gens n'ont aucune mesure dans ce qu'ils font, puis ils pensent que c'est des petits larcins, puis finalement, ça vient détruire des vies des gens, ou détruire des éléments, des pans importants dans leur vie, parce que c'est des informations qui est assumée comme étant protégée, confidentielle, puis un simple clown, tant qu'à moi, vient exposer ça publiquement, ça devient terrible. C'est un peu la mécanisation et l'industrialisation de l'usage de ces informations-là. On change de paradigme, on change d'univers et il est temps que les mesures se mettent en place pour ça.
Alors, tu vois, ça m'énerve hein, parce que j'ai vécu cet après-midi. J'ai tourné une émission télé cet après-midi et l'un des journalistes me dit « Ah bah tiens, dans une des black markets où on peut voir les noms, etc., il a tapé son code postal. La deuxième ligne, c'était quelqu'un qu'il connaissait, très proche. J'espère pour vous qui nous écoutez que jamais vous vivrez le frisson sur la peau d'une personne qui découvre que l'intégralité de sa vie numérique est dans des mains pirates. Et là, sa question et la larme qui coule, il se dit « Mais comment je vais faire maintenant ?»
Ah, complètement. C'est un univers complètement différent et j'ai l'impression qu'on ne mesure pas encore tout à fait. Et justement, comme tu répètes depuis tantôt, faut porter plainte. On est encore sous l'impression que la police ne fera rien. C'est sûr que de petits larcins, non, mais l'accumulation maintenant et l'existence des bases de données immenses parce que les entreprises, que le gouvernement, que plein d'entités possèdent sur nous, fait que si une de ces bases de données-là se vient à couler, les informations qui suivent ont des conséquences non négligeable sur la vie des gens.
Dans le prochain podcast que nous ferons ensemble, je reviendrai sur mon premier mois dédié au RGPD. Vous vous souvenez, le nouveau règlement général des données privées et personnelles. Je vous ferai un petit peu le topo de 30 jours. C'était du grand n'importe quoi. C'est tout ce que je vous dirai comme teasing.
Ben, j'imagine que ça va être ça. Parce que du moins pour moi, je trouve ça très intéressant. J'ai hâte de voir là, ce que tu vas nous relater à ce moment-là, mais ça va être un univers. Puis j'espère que ça va ramener, en tout cas. J'espère que le RGPD va avoir l'effet que ça l'a eu sur, en tout cas, sur le fait qu'on s'est fait harceler de courriels pour dire que les règles de vie privée ont changé sur les sites. J'espère que l'effet technologique réel va avoir des conséquences pour mieux nous protéger.
On verra ça. Et au mois de novembre, lors du Hackfest, je vous ferai un topo de 6 mois. Et là, on verra si ça a vraiment été efficace ou non.
Je le souhaite. Passons. Ben moi, ça termine les grandes nouvelles de Damien qui sont fort intéressantes. Moi, j'ai deux plus petites nouvelles à ce moment-ci toutes les deux sur Apple. La première, c'est qu'Apple vient de changer la façon qu'on accède au iPhone à l'aide du port USB. Pour certaines personnes, ils ont l'impression que c'est une réponse directe d'Apple face au corps de police qui essaie de rentrer sur les téléphones. Comme consommateur, j'apprécie cette approche-là puisque maintenant, on ne pourrait plus casser mon téléphone que sur la base d'une connexion USB. Donc, et c'est l'éternel débat entre qu'est-ce qu'on permet aux corporations, aux polices et instituts d'accéder à de l'information dans la mesure de casser l'accès qu'ils ont à nos téléphones. Donc, c'est un débat qui n'est pas encore fini, qui va être intéressant à voir comment ils vont continuer à se dérouler. Mais chose est sûre, c'est que dans le cas d'Apple, du moins, il y a un effort qui est notable sur les mesures qui sont prises pour protéger les informations de leurs consommateurs. Mais en ce sens-là. Et ma seconde nouvelle, qui est encore pour Apple, il est sorti cette semaine, au moins au moment de l'enregistrement, le fait que les mesures de vérification d'intégrité des logiciels qui peuvent être implantées par les développeurs étaient jusqu'à présent imparfaites, pas parce que le système d'exploitation était vulnérable, mais parce que les explications qui détailler la façon de vérifier l'intégrité du package logiciel était imparfaite. Donc, les personnes qui ont vérifié le code ne vérifiaient qu'une infime partie de leur application. Donc, on était en mesure de changer tout le reste de l'application et sans avoir d'effet réel sur la vérification d'intégrité. Donc, ce qui permettait à une personne malveillante, puis des applications quand même utilisées en sécurité comme Little Snitch qui sont essentiellement vulnérables à ce genre de choses-là, de pouvoir changer et injecter du code à l'intérieur de ce que ces logiciels-là font. Pour la plupart, maintenant, au moment où on se parle, on corrige cette vulnérabilité-là. Mais des fois, il ne faut pas se fier que sur le fabricant de système d'exploitation pour prendre toutes les mesures nécessaires à vérifier si le code n'a pas été injecté.
Nous vivons des périodes informatiques passionnantes. Ça s'injecte de partout, ça se modifie de partout. Je suis pas sûr que ça s'arrête un jour quand même.
On va clore l'épisode 44. Donc, souhaitons que la belle température se poursuive et espérons que le bonheur continue à envahir nos cœurs.
Ben oui, regarde, l'été est là, le soleil. Et puis justement, positive attitude, c'est le plus important.
Ouais. Bonne semaine.
Bonne semaine à tout le monde. Ciao, ciao.
Bye-bye.